Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elle s'attable.
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable. Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Pour ce nouvel épisode d'Elle s'attable, nous sommes dans un endroit secret mais pas si secret que ça. C'est une galerie d'art qui s'appelle Amélie Maison d'Art et qui est située dans le 6e arrondissement de Paris. Derrière une porte cochère se cache donc cette galerie qui est un immense rez-de-chaussée ouvert sur un jardin auquel on peut accéder avec et même sans rendez-vous. La particularité d'Amélie Maison d'Art, c'est que c'est une galerie somptueuse qui présente de jeunes artistes et qui démocratise l'accès au beau. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir dans cet endroit sublime Laetitia Debosse, l'invitée de ce nouvel épisode du podcast Elle s'attable. Bonjour Laetitia.
Bonjour Danielle.
Elle s'attable.
Laetitia Debosse est une sorte de magicienne. C'est quelqu'un qui n'apparaît pas en public, mais qui nous permet à tous de vivre des expériences fabuleuses. J'ai rencontré Laetitia pour la première fois il y a un peu plus d'un an, à la maison Haribert. Très belle maison tenue par le chef Christophe Haribert. Christophe Haribert, le chef de la maison Haribert, non loin de Grenoble. Laetitia est quelqu'un qui aide les chefs, notamment, mais pas uniquement, à trouver leur voie, à exprimer ce qu'ils sont, et qui, à travers ce qu'elle fait, transforme le monde, et notamment via nos assiettes. Alors Laetitia, est-ce que vous pouvez commencer par essayer de nous décrire ce que vous faites ?
Alors ce que je fais, c'est répondre à une vision qui est de se dire que nos métiers peuvent avoir un impact sur les maux de notre époque, comme la transition agricole, comme la santé par l'aliment, comme tous ces sujets-là qui, en fait, nous prennent un peu au corps aujourd'hui.
Le réchauffement.
Le réchauffement climatique, évidemment, l'énergie.
La fracture sociale.
Enfin, tous ces sujets qui sont vastes et qui peuvent nous paraître aussi extrêmement lointains pour nous. Que pouvons-nous faire ? Et en réalité, je pense, et je ne suis pas la seule, à voir à quel point nos métiers, nos communautés locales peuvent avoir un impact sur nos régions déjà et peuvent aussi être des sources d'inspiration extraordinaires. Et c'est ce que j'ai la chance d'avoir des clients qui me font confiance et qui me permettent justement, au travers de notre travail, de réinventer leur métier et de, pourquoi pas, d'inspirer chacun, s'il le souhaite, évidemment, à faire différemment et à le répandre comme ça, comme une traînée de poudre.
Parmi vos clients, il y a des entreprises de type classique, mais il y a aussi un certain nombre de chefs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laetitia de Beauce, de quelle manière vous travaillez avec un chef ?
Quand je travaille avec un chef, en l'occurrence c'était des chefs étoilés, jusqu'à présent ce sont des chefs étoilés, donc on travaille l'ensemble de leur lieu. C'est-à-dire que généralement ils ont un hôtel, un restaurant ou deux, et un spa. Et donc l'idée c'est déjà de travailler la personne, de savoir qui ils sont, dans quel territoire ils œuvrent et qu'est-ce que justement la nature et cette région peut nous apporter au travers de leur métier. Donc on va dans un premier temps analyser justement cet écosystème, tant humain que végétal, minéral. Vraiment, c'est une vision très holistique. D'abord, c'est cette analyse, ce diagnostic que l'on fait ensemble pour ensuite se dire comment justement je vais appréhender mon métier au travers de ce qui se passe dans notre région. En l'occurrence, pour les chefs, on a quand même des engagements qui sont très similaires les uns les autres, comme la transition agricole, la santé par l'aliment, et puis la revalorisation de l'artisanat dans un contexte où on a le choix entre le transhumanisme et le plus-humanisme. Alors, pour être plus concret, le transhumanisme, c'est vraiment la machinerie à outrance, c'est la technologie à outrance. Et justement, là, on revient sur un savoir-faire, sur l'artisanat qui a été peut-être un peu malmené ces 50 dernières années et qui nécessiterait peut-être une revalorisation au sens noble du terme, et pourquoi pas, en tout cas moi c'est l'une de mes croyances, qui puisse avoir un impact vraiment réel sur notre environnement.
Et donc j'imagine que ça passe par s'interroger effectivement sur l'identité du territoire, quels sont les producteurs qui travaillent de manière, qui œuvrent, on va dire, le mieux possible dans ce territoire, quelle identité le chef peut exprimer. Est-ce que ça revient finalement à leur fournir des sortes d'outils que chacun mettra en œuvre à sa manière ?
Alors après ce diagnostic, en effet, l'idée c'est de pouvoir leur donner les moyens de pouvoir incarner ces engagements. Et effectivement, puisque il faut être économiquement viable, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être activiste, bien sûr que non. C'est au contraire de pouvoir trouver les moyens d'incarner ce changement. Donc concrètement, quand une brigade ou du moins un chef se dit « bah voilà, j'ai envie de traiter la santé par l'aliment » puisque je comprends qu'en fait notre corps a un pouvoir de régénération extraordinaire et peut-être qu'on a à apprendre. Et justement, l'idée c'est déjà de les mettre tous dans l'apprentissage de la naturopathie, de la cueillette sauvage. Et tout ça est extraordinaire pour eux parce que non seulement c'est un puissant fond de savoir pour leur créativité, c'est-à-dire que ça leur permet justement de créer autrement avec d'autres contraintes, des contraintes vertueuses pour l'environnement et pour notre corps. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis ça leur permet aussi de pouvoir faire passer un message. Donc on commence par former chacun. Ensuite, on passe aussi sur tout l'aspect, on va dire, classique, dans le sens quel changement d'habitude on peut avoir au sein d'un hôtel pour optimiser nos déchets, optimiser, transformer notre plastique en d'autres matières, etc., etc. Donc on a tout ce travail-là pour ces outils-là déjà à engranger. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin, en effet, et c'est là où ça répond beaucoup à la gastronomie, à l'exigence notamment d'un label comme Michelin ou d'autres, ou Goemio ou d'autres, c'est d'être dans l'excellence. Et qu'est-ce que c'est que l'excellence ? C'est travailler sa singularité. Et sa singularité, en effet, c'est d'être dans un terroir, c'est de raconter notre propre histoire, puisque personne ne peut nous l'enlever, puisque nous sommes ce que nous sommes, et notamment avec les gens qui nous entourent. Nous cherchons des talents, donc déjà les chefs en ont beaucoup, comme les maraîchers, comme plusieurs sourcings en fait d'aliments, mais pas que, on va un peu plus loin justement pour créer voilà un écosystème et un groupe de personnes qui ont la même vision.
Et une expérience globale.
Et une expérience globale, voilà.
Donc ça passe par ce qu'il y a dans l'assiette, la manière dont c'est travaillé, l'assiette elle-même, je pense par exemple à des céramistes, l'objet, le décor dans le restaurant,
Oui, du coup, il m'est arrivé de faire la décoration, en fait, de ces lieux pour raconter ces histoires. En fait, tout est prétexte pour raconter notre propre histoire et revaloriser justement les gens qui sont de cette région, quelle qu'elle soit. Et donc, du coup, ce qui est intéressant quand on a les mêmes engagements, c'est que quand on passe d'un lieu à un autre, en réalité, on raconte jamais la même histoire. Puisqu'en effet, notamment sur le vivant, là, en l'occurrence, près de Grenoble, on parlait beaucoup, on est sur la montagne, sur cet univers, alpin. Quand on va au Finistère vers la Butte...
Qui est un restaurant au bout du Finistère, excellent restaurant au bout du Finistère.
Alors, Nicolas Conreau, chef étoilé, une étoile, à la Butte, dans le Finistère. Et qui, en l'occurrence, lui, va raconter une toute autre histoire, ne serait-ce que l'océan, puisqu'on est face à cet océan majestueux. Mais on a aussi les dolmens, on a aussi d'autres histoires absolument épatantes et très mystérieuses, comme ça, qui jonchent toute cette côte. Donc l'idée, justement, en effet, c'est de prendre tous les prétextes d'un lieu pour, justement, avoir un impact sur les gens qui vont arriver dans ces endroits.
Elle s'attable.
Vous avez un parcours, Laetitia Debos, assez original. Rien ne vous prédestinait à être, on va dire, la magicienne permettant à des chefs de se renouveler. Au contraire, vous avez commencé dans l'événementiel. Et vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cet entretien, que c'était sans doute cette première carrière dans l'événementiel qui vous avait appris à préparer, en tout cas que vous avez préparé à faire ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça ?
Alors au début, je ne pensais pas que c'était une vraie chance, mais j'ai compris que ça l'était au fur et à mesure de mon parcours. En fait, le fait de ne pas avoir fait de grandes études m'a permis d'avoir une grande liberté de penser et d'analyse. Donc en effet, mon premier stage qui a été dans une agence d'événements qui s'appelle Auditoire, on était 30 au départ, 5 ans plus tard, on était 150. Et j'ai eu la chance d'être avec des gens, des interlocuteurs qui avaient fait, pour le coup, de grandes études. Et donc, on a structuré notre travail. C'est un travail qui, au départ, était un travail de saltimbanque. Et bien, cette structuration de pensée m'a permis de trouver mes propres outils et mon propre regard sur les domaines sur lesquels on avait besoin de me faire travailler. Et donc, ça nous permettait d'avoir une créativité folle. Ce qui, justement... m'a permis d'analyser l'entreprise et l'impact que l'entreprise pouvait avoir sur le monde et notamment socialement.
Est-ce que vous diriez, au fort de cette expérience, que justement les entreprises à impact positif sont une réalité ?
Oui, ça l'est, même si on parle beaucoup de greenwashing, ça existe aussi, bien
voire
entendu.
De social washing
voilà,
aussi.
Voilà, voire de social washing, parce que je trouve que la pandémie a quand même remis les choses un peu dans un chemin un peu plus profond, mais... Initialement, oui, en effet, on pensait que c'était une tendance plutôt, faisons du green. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, ça nous dépasse totalement. En réalité, c'est une époque qui nous invite à réapprendre à vivre ensemble, à réappréhender nos habitudes, surtout à se rendre compte à quel point nous sommes dans un écosystème qui peut nous soutenir, que tous les règnes, animal, végétal, humain, en fait, ont un rôle majeur pour qu'on retrouve un certain équilibre de vie, une harmonie. Et c'est ce que j'essaye, en tout cas, au travers des entreprises, avec tous ces porteurs de projets et au travers de ces métiers, de découvrir. On essaye de découvrir une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre, pour justement réapprendre ces grandes lois qu'on a peut-être oubliées.
D'une certaine façon, on peut s'interroger sur la manière dont l'humanité a fonctionné ces 60 dernières années, presque de manière adolescente à dévorer le monde, et se demander si aujourd'hui on n'est pas en train de basculer dans un nouvel âge qui est peut-être un âge de raison, et de cesser de penser l'humain comme hors sol. Ce qui signifie pas qu'il faille rejeter l'ensemble de la technologie ou de ce qui a été développé, mais peut-être arriver à une espèce d'équilibre entre ce que l'on a longtemps su et ce que nous sommes devenus.
Oui, on sort d'une période d'expérience. Vraiment, là, on a expérimenté. On a été les petits professeurs Maboule, en fait, de tous les sujets, en réalité. On a exploré le champ des possibles. Et là, aujourd'hui, on voit bien que le vivant reprend le dessus, en réalité, ou du moins est mis à mal. Et c'est à nous de voir ce que l'on choisit. Moi, je pense que la planète n'a pas besoin de nous, elle va traverser les choses, mais est-ce que l'humanité, et d'ailleurs le GIEC le dit très bien, l'humanité, en revanche, a besoin vraiment de prendre conscience à quel point on a besoin de changer nos habitudes et de voir que le vivant est avant tout le curseur principal. Quand je parle de vivant, en réalité, c'est de se dire que la nature est nécessaire. On ne peut plus substituer l'homme à la technologie et ainsi que l'environnement à la technologie. Ça n'est pas possible en réalité.
Les rapports du GIEC, hein, qu'on comprenne bien, ce sont toujours des choses colossales. Hein. C'est plus de 230 experts qui résument environ 14 000 publications.
C'est le plus grand rapport jamais publié sur le réchauffement climatique. Alors c'est quoi ce rapport? C'est une quarantaine de pages qui nous fait tout simplement un constat sur l'état de la planète.
Vers 2030, le réchauffement de la planète pourrait atteindre 1,5 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, soit 10 ans plus tôt que les précédentes estimations.
Des pluies dévastatrices en Allemagne, des inondations sans précédent en Belgique, autant d'épisodes extrêmes qui pourraient bien se répéter.
La vague de chaleur qui frappe l'Ouest américain et canadien est exceptionnelle par son intensité. La température a frôlé 50 degrés à Lytton, près de Vancouver, soit 25 degrés de plus que la normale au mois de juin. Tous les records ont été pulvérisés, même les experts sont abasourdis par ce qu'ils voient.
À moins d'une réduction immédiate, forte et rapide et à grande échelle, des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius.
Elsa Table.
Est-ce que vous diriez, Laetitia Debeauce, que sur ces questions, l'alimentation et la restauration sont absolument cruciales et essentielles? Est-ce que le changement peut et doit venir de nos assiettes?
Alors, ça doit venir de nos assiettes, dans la vision de se dire qu'en fait, l'aliment est notre principale médecine. Enfin, je ne suis pas la seule à l'avoir dit. C'est de se dire à quel point on a entre nos mains une denrée rare et qu'en effet, nos restaurateurs, tous ces métiers de bouche, ont un réel impact en fait sur cette rééducation. Et ce que je trouve intéressant dans cette époque, c'est d'appréhender cette époque comme quelque chose comme un véritable plaisir. Pourquoi être dans la contrainte alors qu'en réalité, on a oublié à quel point c'était bon de se régénérer, c'était bon de bien manger. On a expérimenté plein de choses. Aujourd'hui, c'est de se dire que nos challenges, les maux de notre société en réalité, elles répondent à un déséquilibre.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Donc pourquoi ne pas imaginer que notamment donc ces métiers de bouche peuvent justement avoir un impact extraordinaire sur notre santé, et Dieu sait qu'on en a besoin en vue de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est quand même un terreau, plus on est bien dans notre corps et mieux on se porte dans l'absolu, donc ça c'est du bon sens. Donc en effet, je pense sincèrement qu'il y a un rôle extraordinaire à avoir citoyen au travers de ces métiers.
Est-ce qu'on ne court pas le risque, si de nombreux chefs prennent cette voie, et on en voit de plus en plus prendre cette voie, la cueillette, l'ultra-saisonnalité, l'ultra-local, des techniques anciennes qui sont remises au goût du jour, comme la fermentation, la conservation, etc. Est-ce qu'on ne court pas le risque d'une autre forme d'uniformité à moyen terme?
Un chef va explorer ce savoir au travers de son terroir. Donc, dès lors où on habite à côté de la mer, on va explorer les choses différemment que lorsque nous sommes en pleine montagne ou en pleine campagne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre éducation, et là je parle vraiment d'une éducation de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est le vivant, nous permet de nous réinventer, mais de manière singulière. On n'est justement pas dans le côté mondialisation, absolument pas. Bien au contraire, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est une expérience humaine absolument fabuleuse pour soi, mais de manière personnelle dans un premier temps, pour ensuite œuvrer pour le collectif. Très clairement, de se dire que on retravaille les saisons différemment, ça fait du bien à la Terre, mais ça fait du bien à un écosystème tout entier, à notre corps tout entier.
Est-ce que vous pensez qu'on devrait envisager de changer peut-être, y compris les cursus aujourd'hui de formation des chefs, en intégrant, alors je ne sais pas s'il faut aller sur la naturopathie pour tous, mais au moins en intégrant un certain nombre de savoirs perdus, qu'il s'agisse de fermentation, qu'il s'agisse de méthodes de conservation, etc.
Complètement. La fermentation, on voit bien que notre microbiote a été complètement aseptisé et que ça nous fragilise beaucoup, beaucoup. Donc c'est vrai que la fermentation devient un art exceptionnel pour nous. Et puis aussi, mine de rien, ça a un impact sur l'énergie. C'est-à-dire que tout l'été, on ramasse toutes les merveilles que l'on peut récolter pour les garder pour l'hiver. Donc ça aussi, ça fait écho à une agriculture plus vertueuse, etc., etc. Et la fermentation, d'ailleurs, la butte, on est en train de faire une cave de fermentation au même titre qu'une cave à vin, avec cette notion et cette connaissance de se dire, mais en fait, on est en train de créer des saveurs, un savoir-faire vraiment exceptionnel au même titre qu'un bon vin. Donc ça va bien au-delà de la santé, ça va bien au-delà de la contrainte de nos crises. C'est vraiment sur une conception de notre métier qui, ben, on est en train d'explorer d'autres choses. Et je trouve ça assez passionnant. En tout cas, pour ceux qui l'explorent, je crois qu'ils s'amusent beaucoup.
Bonjour, je suis Guillaume Sanchez, chef étoilé du restaurant Nezo. On va parler fermentation ensemble. La mise en fermentation est une conservation, comme on en trouve beaucoup d'autres, sauf que celle-ci va avoir pour particularité de conserver toutes les vitamines et les minéraux d'un produit. Et donc en fait tout ce qui est bon, tout ce qui va vous apporter du sens, tout ce qui vous rend vivant en fait. La mise en fermentation est la suite logique d'une non-consommation d'un produit. C'est-à-dire que vous allez acheter un produit, choisir, le sourcer en fonction d'un producteur, d'un terroir, le cuisiner si jamais le besoin est là. Et si jamais il vous reste en fait une carotte, des légumes dans un frigo que vous n'avez pas utilisé, c'est là que va intervenir la mise en fermentation. D'un point de vue environnemental, vous allez pouvoir peut-être acheter un poil plus et pouvoir le conserver toute l'année.
Depuis un an, beaucoup de chefs ont quitté les grandes villes. Bon, pour se réfugier comme un certain nombre d'entre nous au vert, et puis envisager leur métier autrement. Et se dire, mais après tout, ne pourrais-je pas vivre de mon métier, y compris en dehors des grandes villes ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mouvement durable, le début d'un mouvement durable, Laetitia de Beauce, ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être quelque chose d'un peu anecdotique et que, d'une certaine façon, peut-être malheureusement, le système va reprendre le dessus ?
Alors, moi, je suis convaincue que c'est durable, pour deux raisons. La première, déjà, le système va jamais pouvoir reprendre le dessus parce qu'on est face à des crises écologiques tellement fortes que quoi qu'il arrive, de revenir à la nature et de vouloir surtout vivre sa vie telle qu'on l'entend, ça c'est indéniable.
Le mur est devant nous.
C'est notre réalité. Mais au lieu de le prendre, et c'est là où je trouve que c'est assez inspirant, au lieu de le prendre comme quelque chose d'extrêmement anxiogène, en fait, ce constat-là nous permet de nous dire, et si nous avions l'occasion de vivre nos vies telles que nous l'entendions, dans notre bien-être profond ? Et c'est de se dire que, eh bien, c'est assez fou, plein de gens, et pas que des cuisiniers, il y a une sorte d'exode urbaine, eh bien, c'est extraordinaire de se dire qu'on va répartir, en fait, le travail, on va répartir nos talents, notre pouvoir d'achat va être réparti dans les territoires, notre dépense de pouvoir d'achat, j'entends. Donc tout ça, en fait, est extrêmement vertueux, mais c'est de faire confiance au processus de transformation qui est déjà là, en réalité. Et c'est en ça où on parle de prise de conscience. Au lieu d'avoir peur de ce qui nous arrive, c'est de se dire « Ah, mais et si on avait, en fait, une toute autre manière d'appréhender notre vie ?» qui nous était proposé.
Lors de la préparation de cet entretien, vous m'aviez dit qu'il y avait une chose très importante pour vous, Laetitia de Beauce, qui était « il ne faut pas chercher à faire table rase du passé, il faut s'appuyer sur le passé ».
C'est vraiment le propre de la maturité, c'est de prendre en considération nos expériences passées et d'évoluer. En fait, je crois qu'on a été trop dans la polarité des choses. On est toujours entre le blanc ou le noir à passer d'un point A à un point B, alors qu'en réalité, on est toujours dans une zone grise. Et je crois que c'est beaucoup plus aisant d'être dans cette observation bienveillante et de pouvoir justement se dire qu'on a des choses qui sont pas à jeter, en fait. Tout n'est pas à jeter de ce qui s'est passé dans l'humanité jusqu'à présent. Et justement, ça a aussi un impact de ne pas jeter. Donc, comment on transforme l'existant? Comment on transforme ce que nous sommes? Et c'est aussi un beau message humain de se dire, mais arrêtons de nous juger, en fait, les uns les autres. Arrêtons de nous juger nous-mêmes, mais plutôt nourrissons la meilleure partie de nous-mêmes. Eh bien, c'est la même chose pour un bâti, c'est la même chose pour une agriculture, c'est la même chose pour tout le sujet de notre vie. C'est vraiment de se dire que on est dans un recyclage. Mais en réalité, ce qui est le plus important, c'est le chemin. C'est de le faire correctement, avec bien-être, avec conscience de l'autre, en sachant vivre avec l'autre.
Les chefs avec lesquels vous travaillez, j'imagine qu'il y a des hommes et des femmes, est-ce que les approches diffèrent selon les genres, Laetitia de Beauce, ou finalement, avant d'être un homme ou une femme, on est un être humain ?
Exactement. En fait, tout ça n'est qu'un prétexte pour se transformer soi-même. On prend en fait notre métier, mais en réalité, c'est une grande exploration de soi-même. Donc quand je rencontre quelqu'un, et ça c'est très important pour moi, il s'agit de ne pas dénaturer la personne. Donc je la prends telle qu'elle est à un moment donné de sa vie. Et donc on va cheminer ensemble pour aller vers justement cette philosophie de vie. Comment on peut l'appréhender? Comment il peut l'incarner, il ou elle, hein? Et en l'occurrence, justement, en effet, on est à des moments de nos vies différents. On est à des prises de conscience différentes. Parfois, on est beaucoup plus avancé sur certains sujets, parfois beaucoup moins sur d'autres. Et c'est OK. Et c'est justement d'ailleurs ça qui fait la magie d'une rencontre et la magie du travail que j'entreprends. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec chacun. Parce que on est tous dans ce cheminement-là, moi y compris. Voilà, et je crois que c'est ça qui est important.
Est-ce qu'il y a un sujet qui est plus particulièrement difficile pour les chefs, l'univers de la restauration dans la transformation?
Alors les chefs, ce sont des gens exceptionnels parce que ces artisans ont eu énormément de problématiques, notamment sur l'aspect monétaire. Ils ont une pression d'enfer. Et je crois que c'est ça qui limite le plus, c'est comment allons-nous faire?
Oui, financièrement, comment allons-nous tenir et survivre?
Et pas que financièrement, aussi sur le management. Parce que l'humain, aujourd'hui, dans ces métiers-là, a été très très malmené ces dernières années. Et je crois que tout le monde a été échaudé, et notamment, on parlait de formation, je crois que les formations... c'est pas un jugement, mais il y a un moment donné, il faut les faire évoluer aussi dans l'air du temps. Et c'est vrai qu'il y a un certain retard là-dessus.
D'ailleurs, dans le cadre des formations, je crois que vous êtes en train de travailler, Laetitia de Beauce, sur une nouvelle formation avec un organisme relativement connu.
Oui, j'ai rencontré Écotable, qui est un label assez jeune, en fait, mais très, très, très engagé. Et beaucoup de chefs étoilés commencent à être labellisés Écotable. C'est vraiment c'est très intéressant la manière dont ils ont appréhendé leur projet. Ça devient un audit et ça permet à chacun de pouvoir se poser les bonnes questions pour changer ses habitudes. Donc, fort de ce métier-là, on s'est rapprochés les uns les autres et on s'est dit que ça pouvait être assez intéressant de faire une formation, de justement donner ces outils de transformation au sein d'établissements, restaurants, hôtels et spas. Donc que ce soit en présentiel ou par Zoom, en fonction de ce qu'on pourra faire ces prochains mois.
Avez-vous l'impression, à travers ce que vous faites aujourd'hui, de semer justement les graines du changement ?
Je l'espère, je le fais en tout cas avec cette croyance-là, mais tout en étant très vigilante d'être dans ce chemin, parce qu'on l'est tous en réalité. Donc oui, je l'espère, je pense qu'on est en train de tous œuvrer. Je vois que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées ces 3-4 dernières années qui sont de l'ordre de la magie, notamment au sein du guide Michelin, avec cette étoile verte qui est arrivée, et qui est arrivée mine de rien, avec des rencontres qu'on a pu... peut-être un peu poussé. Ça, c'est d'autres aventures, mais c'est vrai que je le vois bien. On a fait bouger des lignes déjà, alors que on aurait pu croire qu'on était très loin de toute cette réalité-là, et pourtant ça s'est passé.
Oui, et qu'aujourd'hui, être un chef ancré dans son territoire, dans la saisonnalité, dans un potager, dans de la cueillette, ça n'est plus comme ça pouvait être considéré il y a une dizaine ou une quinzaine d'années comme quelque chose d'un petit peu exotique entre guillemets, mais c'est en train de devenir un fondamental pour énormément de chefs.
Oui, tout à fait. C'est devenu un fondamental pour énormément de chefs. C'est devenu une source d'inspiration extraordinaire pour chacun. Alors, évidemment qu'il y en avait beaucoup qui étaient déjà dedans, mais là, c'est devenu vraiment un fer de lance, même au-delà de ça, un savoir-être, une façon de vivre, une façon d'appréhender sa cuisine. La grande révolution, c'est d'arrêter l'isolement. Je crois que ces artisans étaient très isolés dans leur métier et qu'aujourd'hui, justement, ces crises qui nous dépassent totalement nous permettent de nous décloisonner et de décloisonner nos métiers. L'aventure entre un réalisateur comme Édouard Bergeon qui rencontre ses chefs étoilés, Édouard Bergeon est donc à réaliser Au nom de la terre.
Donc, film avec Guillaume Canet.
Film avec Guillaume Canet.
Qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs.
Pierre Jargeau, père de famille, qui est agriculteur, qui a grandi dans cette ferme ici, qui a un père qui n'a pas voulu lui léguer la ferme, qui lui a vendu. Le film démarre quand il revient des États-Unis et qui décide donc de racheter cette ferme et de s'installer à son propre compte et va faire face à ce que vivent beaucoup d'agriculteurs depuis des années et à la difficulté de survivre.
Il n'y a plus de trésorerie là. On est à sec.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut avoir pour renverser la vapeur.
C'est intéressant de voir à quel point un réalisateur peut, à un certain moment, en fait, travailler avec des chefs étoilés pour pouvoir défendre la même cause. C'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que plus nous sommes engagés sur des choses qui nous dépassent et plus on fait des ponts extraordinaires. On a des aventures humaines qu'on n'aurait jamais pu imaginer alors qu'on peut se dire que cuisinier. Eh bien non, être cuisinier, c'est de pouvoir vraiment faire le pont avec énormément d'univers. Mmh. Et je crois que nos métiers nous invitent à ça. Et c'est ça qui, moi, me paraît assez passionnant et nous permet justement de prendre un peu de joie de vivre dans un monde qui est très en devenir et qui est très flou.
Est-ce que vous diriez, alors question qu'on pose souvent dans ce podcast, est-ce que vous diriez que les femmes changent le monde à travers la nourriture ?
Oui, alors je pense que le féminin change le monde. Je pense qu'un chef qui va nourrir son féminin, qui va nourrir son savoir-être, sa féminité profonde, eh bien, va changer le monde tout autant qu'une femme qui va nourrir cette féminité. Je crois qu'en fait, ça va bien au-delà de homme-femme. Ça va vraiment sur... on va revenir sur cette idée de savoir-être. Ça va vraiment sur cette...
Du soin.
Du soin, exactement. De cette agilité, de cette souplesse face aux événements. Ça va sur cette délicatesse. Alors, non pas que les hommes ne soient pas délicats, entendons-nous bien. C'est encore une fois la féminité, c'est ça.
Telle que la société l'a structurée,
voilà.
On va dire.
Et c'est vraiment ce féminin-là que l'on a tous, hommes-femmes, à nourrir, à chérir, à mettre en lumière, qu'on a vraiment mis à mal pendant des années, voire siècles. Et que je crois que ça va beaucoup plus loin que le féminin masculin. C'est vraiment être dans ce savoir-être et d'arrêter cette polarité, en fait. On a tous ça en nous, il faut le nourrir. Et Dieu sait qu'il y a aussi des femmes qui sont très masculines. C'est pareil, en fait. Et c'est pour ça, pour en revenir à la food, nourrir ces valeurs féminines, voilà, plus que les femmes.
Merci beaucoup, Laetitia Debos. J'espère que vous avez aimé cet épisode du podcast Elsa Table. Je vous invite à le commenter, le partager, le liker si vous le souhaitez. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.
Merci infiniment, Daniel.
Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
En podcast sur toutes les plateformes de streaming.